Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans Cop Paris, votre rendez-vous hebdomadaire, vous en avez l'habitude avec le PSG sur BFM Paris-Île-de-France. Un PSG aux deux visages cette saison, cela s'est encore confirmé sur la semaine écoulée. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Pernia, journaliste RMC, auteur de plusieurs ouvrages sur le PSG. Salut Clément.
Salut Julien, je suis très content d'être là.
Kevin Makassi est content d'être là également,
toujours
et animateur du Max Space. Avec
toujours un plaisir d'être là.
Et dans quelques instants, Jean-Michel Badiane, ancien joueur du PSG et actuel entraîneur adjoint d'Angers, sera avec nous pour débriefer ce Angers-PSG, un PSG à taille patron, à l'efficacité retrouvée, ce qui contraste forcément avec la Ligue des Champions. Quel bilan en tirer à mi-parcours en C1? Quels sont les problèmes et les axes d'amélioration? Et surtout, le PSG va-t-il se qualifier pour la suite de la compétition? C'est la question que l'on vous a posée sur le hashtag Cop Paris. Troisième partie. Ce sera l'instant nostalgie avec Jean-Michel Badiane. Retour sur un match qui a eu lieu il y a 20 ans, quasiment jour pour jour. Une victoire mémorable du PSG au Stade Vélodrome. Enfin, comme tous les lundis, les résultats de vos clubs franciliens Omnisports. Cop Paris, c'est parti. C'est notre invité d'honneur ce soir, un vrai Titi parisien, formé au club, ancien joueur du PSG. Cop Paris a le plaisir d'accueillir ce soir monsieur Jean-Michel Badiane. Bonsoir Jean-Michel.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
Merci d'être à notre côté pendant toute l'émission. Jean-Michel, alors ancien parisien, je le disais, formé au club, vainqueur de la Coupe de France en 2006, mais samedi soir, tu nous as fait une petite infidélité. Tu étais dans le camp d'en face, sur le banc d'Angers, en tant qu'adjoint aux côtés d'Alexandre Dujeu. Ça t'a fait quoi déjà d'affronter le PSG, ton club de cœur, ton club formateur?
Oui, effectivement, club de cœur, parce que j'y suis arrivé à l'âge de 8 ans et demi pour en repartir à l'âge de 24. J'ai quasiment tout connu de toutes les équipes de jeunes, à l'équipe première, à la Coupe d'Europe, la plus prestigieuse, puisque j'ai eu la chance de jouer un match de Ligue des Champions, ouais. À la sélection aussi avec les espoirs. C'est aussi du fait de jouer dans un club aussi important que le Paris Saint-Germain.
Alors, il y a eu un petit pincement, il y a eu un petit pincement au cœur samedi soir?
Oui, mais il avait déjà eu lieu il y a 2 ans, puisque ouais. Je suis arrivé au club au mois d'avril il y a 2 saisons avant la descente. On avait joué déjà le Paris Saint-Germain. Il y a toujours un pincement au cœur, parce que c'est un club pour lequel j'ai beaucoup de sympathie. C'est un club pour lequel toute ma famille aussi est supporter. Ouais. Donc forcément, on lui souhaite toujours le meilleur. Et puis même si je ne connais plus aucun joueur qui compose l'effectif, je suis toujours content quand je vois des garçons ouais. sortir du centre évoluer avec l'équipe première. Et puis surtout, il y a du côté des intendants, j'ai revu des têtes qui m'étaient familières, donc avec beaucoup de plaisir samedi.
On va revenir avec toi sur le contenu du match pour le PSG, mais aussi pour ton équipe, le SCO d'Angers. Messieurs, on va voir les images de ce Angers-PSG où les Parisiens ont assommé les Angevins. 4 buts parisiens en première période, doublé de Kanginli tout d'abord. Autre doublé ensuite de Barcola qui conforte son statut de meilleur buteur de Ligue 1. 10 réalisations, 4-0 à la pause, 4-2 score final. On a quand même la confirmation, Clément Kevin, que c'est un PSG à deux visages cette saison.
C'est un PSG à deux visages, oui et non, parce que Paris est à deux visages, parce que Paris entame très bien ses rencontres, parce que Paris est plus fort que la saison passée, mm-hmm. on en parlera peut-être tout à l'heure avec Jean-Michel, et parce que Paris fait un parcours en championnat pour l'instant quasiment parfait. Oui, on est frustré en fait de ce relâchement en deuxième mi-temps. On l'avait vu contre Strasbourg au Parc, on l'avait vu surtout au Stade Vélodrome, et là on l'a vu à Angers, puisque parfois, tu as envie de te dire, Paris pourrait en coller 5, 6, 7, 8.
Tu as raison d'évoquer ce contraste entre première et deuxième période. Moi, j'ai évoqué plus le contraste entre Ligue 1 et Ligue des Champions, Kevin.
Ouais, bah forcément, quand tu regardes le match de mercredi, où tu as un manque d'efficacité, tu marques un but et là, tu en marques 4. Des fois, c'est difficile à comprendre parce que là, contre Angers, bon, on va dire voilà, l'adversaire est différent. Mais contre Angers, tu marques 4 buts et contre l'Atlético, tu marques un but. Alors qu'on va dire que tu as quand même eu des occasions très franches des deux côtés. Donc, bon. Mais
la réponse, Luis Enrique l'a donnée en conférence de presse. Il a dit que oui, ces joueurs étaient fragiles psychologiquement, qu'il y avait un problème psychologique dans les grands rendez-vous, dans l'approche des grands rendez-vous. Les attaquants du PSG, Dembélé, Barcola, ils savent marquer des buts. Ça sait marquer des buts. C'est des joueurs talentueux, ils l'ont montré quand ils sont en confiance. Voilà, il y a une panne mentale, il y a une panne psychologique.
Il y a un blocage. On va rester sur la Ligue 1. Le PSG, meilleur que tout le monde en Ligue 1. Jean-Michel, c'est ce qu'a confirmé Alexandre Dujeu, l'entraîneur d'Angers. Vous venez de battre Monaco, vous aviez fait match nul à Marseille. Mais Alexandre nous explique, et on en reparle juste après, que le PSG est meilleur que tout le monde en Ligue 1.
Nous, le match où on a eu le plus de mal, c'est ce soir. clairement. Au début, c'est vrai qu'on a l'impression d'être en place et de courir beaucoup après le ballon, avec un ballon qui est un peu insaisissable, puis toutes ces permutations qui font qu'on a rarement le même vis-à-vis. Ça, c'est pas facile à contrecarrer pour les joueurs sur le terrain.
Jean-Michel, tu confirmes les propos d'Alexandre, le PSG, c'est meilleur, c'est au-dessus que tout le monde en Ligue 1, au-dessus de Monaco, au-dessus de l'OM?
Oui, très clairement. Déjà, le classement le démontre. Quand on voit une équipe comme l'OM, par exemple, qui joue un match par semaine et qui est déjà distancée par ce Paris Saint-Germain qui joue tous les trois jours, idem pour l'AS Monaco, que nous, on a joué la semaine dernière et qui est déjà une adversité importante, mais qui reste en dessous de ce Paris Saint-Germain. Parce que quand on voit ce qu'ils sont capables de proposer à leur CR sur un adversaire, où personne s'est réveillé samedi soir en se disant c'est étonnant qu'il y ait autant d'écart entre eux. Angesco et le Paris Saint-Germain. Maintenant, ce qui est difficile, c'est quand vous mettez beaucoup de choses en place toute la semaine, parce que vous les connaissez, parce que vous les voyez évoluer.
Qu'est-ce que vous aviez mis en place, Jean-Michel? Parce qu'Alexandre explique que la possession de balles, les permutations incessantes, ça vous a étouffé.
C'est compliqué dans le sens où on a beau se dire que c'est des positions A, B, C, D, on met beaucoup de joueurs à l'intérieur côté parisien. Quand on voit que vous avez Ruiz, Mayulu, Warren, Hakimi, Ouli, suivant la position d'Hakimi lorsqu'ils sont amenés à attaquer, plus Asensio qui ne joue pas comme un véritable avant-centre, quelque part cette équipe elle vous impose quelque chose d'important. Si vous voulez exister face à elle, il vous faut cette endurance mentale. Sans ça, c'est compliqué parce qu'elle vous impose des temps de jeu, elle vous oblige aussi à choisir votre poison, dans le sens où vous cherchez à mettre de la densité à l'intérieur, ça va faciliter forcément les isolations côté. Alors hier, Ousmane rentre en seconde période, mais en temps normal, c'est Dembélé, c'est Bradley Barcola, c'est Lee quand il est très large, ça peut douer aussi, et les 1 contre 1 vous fragilise aussi.
Jean-Michel, Clément Perniac est avec moi en plateau, a une question justement sur ce PSG.
Ouais, Jean-Michel, je voulais savoir, en tant que membre du staff et entraîneur adjoint, qu'est-ce qu'on dit à ces joueurs à la mi-temps quand on perd 4-0 à domicile contre le PSG, qui est la plus forte équipe du championnat? Comment on remotive un groupe quand on est à ce niveau-là de retard?
Déjà, c'est important d'être lucide. Pour moi, faut pas. Et d'ailleurs, je pense que le staff l'a très bien fait dans son ensemble. Pas mentir aux joueurs sur ce que va être la deuxième période. Nous, l'important dans ce genre de match, alors certes, on l'avait préparé pour pouvoir faire un résultat et un résultat important, mais l'important, c'est de dire aux joueurs qu'il y a une deuxième période. Et que cette deuxième période, elle doit nous servir sur les prochaines sorties. Alors certes, heureusement d'ailleurs pour nous, on ne joue pas 33 fois le championnat face au Paris Saint-Germain, mais elle devait nous servir. Dans le sens où cette première période, on est mené 4-0, mais elle ne reflète pas notre 100%. En tout cas, le 100% qu'on est capable de proposer.
Et c'est vrai, qu'il y a eu une équipe angevine, Jean-Michel, aux deux visages. On va revoir en image les deux buts d'Angers, 4-0 à la mi-temps. Mais vous remontez deux buts, vous la gagnez cette seconde période avec un très joli but, magnifique volée d'Esteban Paul. Kevin, toi, du côté parisien, ça t'agace, ça t'inquiète de voir, comme face à l'OM, finalement, le PSG baisser de pied en seconde période?
Généralement, quand je vois les équipes contre le Bayern, tu sais, qui en mettent 7, 6, 7, 8, nous, malheureusement, on n'arrive pas, tu vois, à être un rouleau compresseur, j'ai l'impression. À chaque fois, on va se satisfaire du minimum. 3-0, on va s'arrêter là. Alors que quand tu regardes les grandes équipes, généralement, c'est 5-6-0. Et je pense qu'en fait, Luis Enrique devrait imposer à ses joueurs en leur disant, les gars, c'est pas fini, le match n'est pas terminé, un match c'est 90 minutes. Ouais. Donc il faudrait mettre le plus de buts possible, tout le monde pour avoir aussi cette confiance.
C'est aussi une manière de travailler, cette efficacité. Même si tu en mets 4 en première période, en mettre 7 te donne encore plus de confiance.
Oui, c'est vrai. Là, il en a profité aussi pour faire tourner à la mi-temps, en faisant rentrer des joueurs qui jouent peu au moins.
Voilà, Hakimi qui sort.
Ezagué et Désiré Doué qui rentrent. Oui, c'est marrant parce que c'est même surprenant d'ailleurs. Il faudrait lui poser la question à Luis Enrique. Ça ressemble pas trop à ses méthodes, à sa manière de fonctionner. Lui qui est très exigeant envers son groupe, qui demande beaucoup, toujours beaucoup d'efforts, beaucoup de courses, beaucoup d'intensité. C'est étonnant. Alors est-ce qu'on est sur un relâchement psychologique dans l'avant-dernier geste, dans le dernier geste, un peu moins de concentration?
Est-ce que Jean-Michel, tu l'as ressenti honnêtement que le PSG baissait de pied en seconde période?
Très honnêtement, oui, mais après ça s'explique aussi par différentes raisons. Il part en sélection dans la foulée. Je pense qu'il avait cette volonté de, de très vite remettre une intensité importante pour faire des différences suite à la défaite face à Atlético Madrid. Mais lui, par contre, je ne l'ai pas senti baisser de pied. Hein. Au contraire, ouais. Il a continué à être exigeant, il demandait des courses. Il n'était pas content sur les quelques situations qu'ils ont pu avoir en seconde période. Donc non, lui, au contraire, il est resté fidèle à lui-même. D'ailleurs, il y a l'occasion de Colo qui frappe le poteau aussi. Ouais. Ah, je pense qu'il, lui, aussi bien pour lui que pour le Cirque, il aurait souhaité que ça fasse ficelle. Ouais. Mais lui, c'était une occasion, parce que le score était très rapidement validé, ouais. De faire rentrer des garçons qui avaient moins joué. Mais il a continué à être exigeant. Ça, je peux vous rassurer là-dessus.
C'est passionnant de débriefer le match avec Jean-Michel Badiane. Les top flops, on va faire rapide, messieurs. Le top, c'est assez simple. Kanginli, forcément auteur d'un doublé plus une passe décisive. Ouais. Est-ce qu'il a changé un petit peu de dimension cette année, Kanginli ?
Dimension, moi j'ai un peu de mal un peu...
progression.
Avec les Kanginli. Oui, ça c'est une progression.
Régularité.
Mais dans les matchs importants qui comptent, malheureusement, on le voit peu. Ouais. Et moi je trouve que c'est un joueur qui est meilleur lorsqu'il rentre que lorsqu'il est titulaire. Mm-hmm. Tu vois ? Donc, progression, oui, forcément.
Buts, hein, quand même, Ligue, il a déjà
c'est sa deuxième année. Mais bon, après, il faut voir dans les grands matchs, pour moi.
On avait un débat avec Jordan Le Sueur à l'édition. Quel est le meilleur poste, même si on sait que voilà, Luis Enrique adore que ses joueurs jouent à peu près à tous les postes. Milieu relayeur, ailier droit, numéro 9, il joue partout quand il
est. Ah, c'est un joueur qui, selon moi, manque de puissance pour jouer sur le côté. Donc, vu que Luis Enrique adore avoir des joueurs à l'intérieur, ils sont souvent 6, 7, 8, Jean-Michel le disait. Pour moi, Lee, qui a une touche technique assez intéressante, c'est pour ça qu'il joue en faux neuf. Pour moi, c'est à l'intérieur. Alors, à l'intérieur.
Milieu créateur où ça manque parfois un petit peu.
À l'intérieur, ça peut être dans les deux duos, dans la pointe, dans le triangle, ou ça peut être faux neuf. Ouais. Et Luis Enrique l'utilise beaucoup en faux neuf. Voilà, je pense que c'est son meilleur poste. Il est mieux là que sur le côté, même si, on l'a vu la saison passée, très bonne qualité de centreur. C'est peut-être le meilleur centreur de l'effectif. Ça l'était quand il y avait Gonzalo Ramos. Ouais. Vu qu'il n'y a plus de vrai neuf, ouais, c'est plus compliqué.
On en parlera en seconde.
Donc je dirais intérieur, milieu relayeur ou faux neuf.
Juste le flop rapidement, et malheureusement on l'évoque souvent lorsqu'il évolue à ce poste-là de latéral gauche, Jean-Michel Badiane. On a malheureusement choisi, je dis malheureusement parce que ça se répète, Beraldo. Est-ce que vous aviez ciblé ce côté gauche de Beraldo dont on sait que c'est parfois défensivement le point faible?
Malheureusement.
Alors pas pour ces raisons. Ouais. Dans le sens où non, c'est surtout parce que c'est un joueur qui forcément a un peu moins de minutes que les autres, mais c'était pas spécialement Beraldo. Nous, ce qui nous intéressait surtout, c'est la relation qu'on allait pouvoir trouver à la récupération, notamment sur nos transitions, et c'est là où on a eu beaucoup de difficultés sur cette première période, mais pas spécialement Beraldo. Ça concernait aussi Skriniar ou Marquinhos, ouais. Pouvoir trouver cette première relation pour ensuite profiter des espaces qui pouvaient nous être proposés, parce que Hakimi est très haut en général, donc c'est une animation défensive qui se constitue très souvent à 3 lorsque vous arrivez à sortir du contre-pressing parisien.
Clément, Kevin, juste en deux mots, Beraldo, c'est le plan B à gauche, faute de mieux ?
Bah oui, c'est ça, faute de mieux, faute de Lucas Hernandez, faute de potentiel recrue. Il est beaucoup plus à l'aise dans l'axe. Bon, bah, maintenant on joue en défense à 3 dans l'axe, donc en tout cas balle au pied. Mmh. Oui, il manque de beaucoup de choses, il manque d'impact, il manque de... parfois de vitesse, il manque de vigilance sur certaines situations.
Dans son dos aussi, souvent les prix.
Ouais, c'est décevant, Beraldo, cette saison. C'est décevant.
On va partir en pub, messieurs, et on se retrouve dans quelques instants pour faire le bilan, pas très réjouissant, à mi-parcours du PSG en Ligue des Champions. A tout de suite. De retour dans Cop Paris avec notre invité spécial ce soir en duplex, Jean-Michel Badiane, ancien joueur du PSG, mes deux chroniqueurs Kevin Makassi et Clément Pernia. Messieurs, l'heure est grave, on est à mi-chemin, à mi-parcours de cette grande phase de poule, désormais en Ligue des Champions, 4 matchs disputés, il en reste 4 à jouer. Pour l'instant, on va voir le classement, le PSG est virtuellement éliminé, 25e sur 36, il faut terminer au pire 24e. Clément, Kevin, avant de mettre ce que je vais appeler les mots sur les mots, ouais. Est-ce que vous êtes surpris, déçu, frustré? C'est quoi le sentiment?
Oh, frustré, parce que comme on l'a dit, un manque d'efficacité. Après, 4 points, c'est pour le PSG, malheureusement, c'est pas possible.
Oui, c'est de la frustration parce que Paris doit être au-dessus de 4 points, en toute objectivité. Il y a beaucoup de lacunes, il y a eu beaucoup d'erreurs, il y a eu beaucoup de failles, notamment contre l'Atlético, je trouve. Je compte pas le match à Arsenal où je trouve qu'il y a un vrai gap entre les deux équipes.
Ouais.
Mais contre l'Atlético, tu dois faire beaucoup mieux. Contre Eindhoven, tu fais un beau match et voilà, en fait, il manque tu manques d'efficacité et c'est vraiment ce qui rend frustrant.
Dans les deux surfaces, on va développer ça dans quelques instants. Jean-Michel, on entend beaucoup parler de blocage pour le PSG en Ligue des Champions. Toi, tu as joué, c'est vrai, tu le rappelais, cette compétition avec le PSG. À quel point c'est différent de la Ligue 1, avant, pendant, après ?
C'est différent dans le sens où tu rencontres que l'élite. Dans le sens où là, il y a une formule aussi qui est un petit peu différente aussi. Hein, rappelez-vous, hein, on parlait très souvent des phases de poule qui étaient expédiées assez rapidement pour les Parisiens et on les attendait au mois de mars dans les matchs qui comptent. Là, les matchs comptent tout de suite. Il faut tout de suite être prêt. Je vous rejoins sur l'opposition face à Arsenal où clairement, il n'y a rien à dire là-dessus. Ouais. Après, derrière, si on analyse un peu les matchs, en tout cas en termes de résultats, contre Girone, fin de match, Arsenal passe au travers. Contre le PSV, on est mené pour une équipe comme le PSV qui était amputée de pas mal de joueurs importants. Ouais, un résultat protégé, c'est pas pareil qu'un résultat qu'il faut aller chercher. Donc forcément, vous êtes amené à vous découvrir, à forcer des situations, à pas être tout à fait dans le plan que vous avez pu éventuellement entreprendre. Ce qui vous fait faire aussi de la lucidité, parce que vous forcez des situations, parce qu'il faut revenir aussi au score. Et l'Atlético, il suffit de voir, hein, entre l'ouverture du score de Warren, derrière, il y a très vite une égalisation, vous vous retrouvez en difficulté, vous poussez, parce qu'il vous faut aussi, vous avez ce déficit de points, puis que dire de cette dernière situation où
je résumerai en disant, Jean-Michel, que le Cholismo n'est pas mort. Diego Simeone a vraiment gagné un match à la Diego Simeone au Parc des Princes. On va parler de l'efficacité offensive, messieurs, parce que c'est quand même le gros point noir sur ces quatre premiers matchs. Quelques chiffres qui font froid dans le dos. 3 buts en 4 matchs, dont un CSC, à peine 30% de tirs cadrés et un taux de conversion des tirs en but, 3,5%. Luis Enrique parle de blocage, les amis, d'une mauvaise série, d'une mauvaise blague. Est-ce qu'on peut juste s'en tenir à ça ?
Non, c'est gros. Moi, je pense que les attaquants, je sais pas, comme peut-être qu'il y a un blocage, ça c'est vrai. Mais je sais pas, les spécifiques à l'entraînement, comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il met en place justement pour que les attaquants soient plus efficaces pour les matchs précédents, tu vois, pour les matchs à venir ? Enfin, c'est ça qu'on aimerait savoir. Mais malheureusement, en fait, quand on regarde les matchs, le contenu est toujours bon, mais dans l'efficacité, on pêche.
Jean-Michel, vas-y.
Après, pour aller dans le prolongement, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'en Ligue des Champions, il y a une dimension talent qui est folle. On peut parler de projet collectif, et c'est bien ce qu'il amène, ce qu'il souhaite amener. C'est bien, et je le souhaite à de nombreux clubs, mais on vient de perdre un garçon à 50 buts la saison.
Ouais.
Buteur, garçon qui marque des buts, c'est un métier. Ouais. Est-ce que demain, même si on voulait le plus gros des collectifs, est-ce que le Barça accepterait de jouer sans Lewandowski ? Est-ce que le Real Madrid accepterait de jouer sans Vinicius ? Est-ce que City accepterait de dire on vend Erling Haaland et puis peut-être qu'on va compenser par 4 joueurs à 10 buts la saison ?
Ça marche pas comme ça.
50 buts la saison, c'est un métier.
Ce PSG serait-il forcément plus fort, Clément, avec un des joueurs que vient de décrire, un numéro 9 pour Vinicius ?
C'est ce que j'allais dire, c'est qu'il y a, tu perds un joueur à 45 buts la saison et tu perds aussi celui qui doit t'en mettre 20 ou 25 sur blessure.
Oui.
En la personne de Gonzalo Ramos. Ouais. Bon, là, il va revenir. Parenthèse, je suis pas sûr qu'il joue chaque match. Hein. C'est pas forcément. Quand il était là, Luis Enrique ne le mettait pas à chaque match.
Oui, c'est vrai.
Donc, attention on l'attend comme le Messi. Enfin, beaucoup l'attendent comme le Messi. Attention. Ouais.
Ça va Randal Kolo Muani, c'est pas ou plus du tout une solution ?
Bah non.
Non, malheureusement. Mais dans l'esprit de Luis Enrique, je vous pose la question dans votre esprit à vous. Non ?
Je pense que le crédit est dépassé.
Ouais.
À mon avis, on y a cru en réalité.
Alors, dans la situation du PSG où numériquement de l'effectif était assez limité, pourquoi ce serait pas une doublure à Barcola
sur les matchs face au PSV, face à Girone, face à l'Atlético, s'il rentre, est-ce qu'il en met pas un ou deux ? C'est très moche, mais est-ce que c'est pas lui qui va les mettre ?
Tu vois, sur l'occasion de Hakimi, il doit la jouer à rentrer. Il est bien placé. En fait, il peut apporter des solutions. Il a, mine de rien, une pointe de vitesse quand même. C'est un joueur qui percute.
Et qui fera en transition.
Et le PSG, aujourd'hui, n'a rien ou très peu de choses à faire rentrer quand il doit rattraper un score, quand il doit faire la différence, quand il doit apporter du peps. Donc aujourd'hui, alors qu'il est... si tu me dis ça doit être le 9 du PSG, je te dis non. Tu me dis on peut s'en servir, on peut s'en servir autrement pour apporter du PEP sur les côtés.
Je voudrais qu'on écoute Luis Enrique justement sur cette philosophie autour du numéro 9. Ce qu'il explique après la défaite face à l'Atlético, c'est qu'il ne changera pas ses plans.
Yo soy fiel a mis ideas.
Je reste fidèle à mes idées. Le jour où j'échouerai dans le football, ce sera avec mes idées, non celles d'un journaliste, d'un autre entraîneur ou de qui que ce soit. Ce sont les principes qui m'ont amené jusqu'ici et ce sont ceux que je vais continuer à suivre.
Est-ce qu'il est trop dogmatique, Kevin, à ce sujet ? Il doit évoluer ? Ouais, moi, impérativement.
Moi, je pense que oui, personnellement. Moi, des fois, qu'il y a la chance quand même de le côtoyer aux conférences de presse, on lui pose des questions, voilà, sur le numéro 9, sur les plans, le système, etc. Moi, je pense que personnellement, lui, il doit jouer avec un numéro 9. Là, pour moi, la solution au PSG,
d'avoir un numéro 9. À la prochaine conférence de presse.
Non, malheureusement, je.
Il faut choisir les mots. Avec, faut...
Exactement, mais moi, selon moi, on doit jouer avec un numéro 9. Pour moi, un numéro 9 cet hiver est primordial. Ok, ouais. Tu l'as dit, comme tu l'as dit, Gonzalo Ramos va revenir. Mais ne lui mettons pas trop la pression. Et j'aimerais avoir, tu vois, aussi un concurrent réel à Ramos. Parce que je pense que Colomani ne sera pas vraiment le concurrent pour Ramos. Ouais.
Clément, tu avais une question, je crois, pour Jean-Michel Badiane à propos de Luis Enrique.
Oui, on a un entraîneur qui a posé un style de jeu depuis un an et demi, qui est plutôt plaisant à voir, avec une vraie cohérence, un vrai projet. Et les supporters, globalement, sont contents. Et le PSG joue bien mieux depuis un an et demi. Et puis, en parallèle de ça, eh ben, y a l'obligation de résultat inhérente à un club comme le PSG. Est-ce qu'en cas d'incident industriel, c'est-à-dire une élimination du PSG de la Ligue des Champions, le projet doit être remis en cause selon toi et la place de Luis Enrique aussi, ou pas du tout, il faut enfin miser sur le long terme avec un coach comme ça?
Voilà, on n'entend plus Jean-Michel. Est-ce qu'on a encore?
Vous m'entendez?
Ouais, c'est bon, on t'entend.
Ouais. Il est compliqué de répondre à cette question dans le sens où je n'y suis pas à l'intérieur du projet. Maintenant, pour Luis Enrique, Julien, tu parlais du dogmatisme qu'il peut avoir. À mon sens, il a raison de l'avoir. Il a raison parce que pour convaincre, il faut être convaincu et chaque jour, au réveil, du bien fondé de ses idées. Je pense que, comme dans tout grand club, même dans tout club tout court, quand les résultats ne sont pas conformes à ce qu'on veut, le bateau tangue et il tangue fort. Alors parfois certains sont amenés à en descendre, mais c'est
est-ce
pas
que,
pour
est-ce
ça.
Que c'est,
que...
Jean-Michel, est-ce que c'est acceptable une saison de transition pour le PSG où le PSG n'irait pas?
Non.
Non.
Mais non, parce que non, ça
transition
pas
après une demi-finale, pardon.
Dans un club comme le Paris Saint-Germain, au même titre que au Bayern, à City, à Barcelone, à Madrid, ça n'existe pas une saison de transition. On est tous les jours dans l'urgence, on est tous les jours sous pression. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça qu'à mon sens, un joueur du Paris Saint-Germain ne fait pas le même métier qu'un joueur du reste du championnat.
Bah tiens, c'est parfait. Jean-Michel, tu me fais une passe décisive impeccable pour l'autre point noir de cette phase de poule jusque-là. On ne va pas se mentir, Didier Donnarumma. On va voir également quelques chiffres. La question qui se pose, c'est tout simplement de savoir si Didier Donnarumma a encore ou a déjà eu le niveau Ligue des Champions au PSG. Il y a ce poids à porter, effectivement, du maillot parisien en Ligue des Champions.
Bon, il y a des joueurs, je pense que Jean-Michel ne me contredira pas, il y a des joueurs pour qui le maillot du PSG est trop lourd à porter. Et je pense que Donnarumma en fait partie, au même titre que Fabian Ruiz, au même titre que d'autres. Et c'est pas tant le fait qu'il ait fait des erreurs, Donnarumma, même s'il a contre l'Atletico, il en fait une grosse, c'est qu'il ne t'apporte pas les garanties nécessaires et il ne te sauve jamais, en fait. Quand tu es gardien du PSG, on parle beaucoup de Lucas Chevalier, par exemple, en ce moment, qui fait 10-15 arrêts à Lille, et tout le monde dit Chevalier au PSG, pourquoi pas. Mais c'est pas le même métier de devoir faire un arrêt ou deux arrêts quand il faut, ou d'en faire 10-15 quand on est à Lille.
En 4 matchs, hein, c'est famélique. Hein, Donnarumma, c'est qu'il en prend 5.
Et en plus, Donnarumma, il souffre de la comparaison avec son prédécesseur, qui lui était là quand il fallait faire les arrêts.
Est-ce qu'il a grillé son dernier joker
Moi, oui. Mais d'ailleurs, je ferai bien un mini mea culpa, désolé, parce que la saison dernière, on avait fait une émission avec Charlie Tang.
Mais c'est loin, la saison dernière.
On avait fait une avec Charlie Tang, j'avais défendu Donnarumma justement avant le match contre l'AC Milan. Et là, en fait, pour moi, son crédit est totalement fini.
Je pense que aux yeux de Luis Enrique, il est en passe d'être épuisé aussi.
Alors, ouais. la question qui tue, Bayern PSG, c'est dans un petit peu moins de 3 semaines, ça fait 9 dans les buts.
Oui.
Moi, je tente.
Ton avis sur la question, je te demande pas forcément de choisir, Jean-Michel Badiane, mais toi qui fais partie d'un staff sur la concurrence, le bienfait d'une concurrence entre gardiens de but.
Nous, on l'a connu à notre échelle quand je suis arrivé au club avec Yaya Fofana, qui aujourd'hui qui a la responsabilité du poste, et Paul Bernardoni.
Ah oui, c'est vrai.
On avait eu des difficultés à ce niveau-là. Pour moi, c'est
trancher.
Un poste tellement particulier qu'il faut trancher très vite. Ouais. Pour revenir à Donnarumma, moi, je ne serais pas aussi critique le concernant. Je pense que dans le casting qui fut le sien, il fait partie d'une école très spéciale, les gardiens en Italie, où ils ont des spécificités bien précises au poste et qui ne coïncident pas avec notre façon de jouer aussi ici, ce qui le met en difficulté sur beaucoup de situations. Mais je ne serais pas aussi critique sur ce qu'il est ou ce qu'il doit être dans 3 semaines pour le Paris Saint-Germain face au Bayern.
Et ben on va voir le calendrier justement dans 3 semaines avec ce déplacement au Bayern et les 3 autres matchs qui attendent le Paris Saint-Germain, Salzbourg, Stuttgart et Manchester City, le seul qui reste à domicile. Il va falloir vraisemblablement 2 victoires, 6 points. Est-ce que ça va le faire, simplement?
Je pense oui. Pourquoi ? Parce que Salzbourg, à mon avis, déjà, c'est une équipe qui a pris 4-0 contre Brest. Donc, normalement, tu es censé gagner là-bas. Mm-hmm. Stuttgart en janvier. Voilà, sur le papier, on est favori. Je pense qu'on va prendre les 3 points. Ou sinon, contre City, un miracle. Pourquoi pas ? Ouais. Face à Guardiola. Je sais pas, un réveil soudain de l'équipe.
Moi, j'en vois 5. J'en vois 3.
5, je sais pas si ça suffit.
3 à Salzbourg, 1 Stuttgart points, mais... et 1 contre City.
Ouais, ça se jouera entre ouais. 8 et 11.
C'est ça, voilà, ça, exactement. Ouais.
J'en vois 5. Bon, on en est à espérer la 24e place. Oui. On va voir le résultat du sondage. On vous a demandé sur le hashtag Cop Paris si le PSG pouvait encore se qualifier en Ligue des Champions. Bah, ça respire pas l'optimisme. Hein. 61% de.
Il y a un problème de pourcentage.
Ça ouais. fait peur, oui, il y a un petit problème de pourcentage.
On dépasse les 100.
Ça donne quand même le ton de, voilà, d'une communauté ouais. qui n'est pas vraiment très optimiste pour le PSG. Nouvelle coupure pub, on va se retrouver dans quelques instants pour évoquer ton parcours, Jean-Michel Badiane, au PSG et un certain OM-PSG mythique. C'était il y a 20 ans. À tout de suite. De retour dans Cop Paris avec mes deux chroniqueurs du soir, Kevin Makassi et Clément Pernia, et un ancien joueur du PSG qui nous fait l'honneur de sa présence, Jean-Michel Badiane. Jean-Michel, c'est pour toi. On aime bien dans Cop Paris ouvrir la boîte à souvenirs, et j'aimerais déjà revenir aux origines de ton histoire avec le PSG. Alors, tu es né à Paris, formé au club. Explique-nous ce que tu ressens quand un soir d'août 2004, si je ne dis pas de bêtises, Vahid Halilhodžić te lance en Ligue 1.
Beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Parce que comme tu viens de le dire, quand on est formé à Paris, qu'on est né à Paris, qu'on a la chance de jouer pour le club de son cœur, qu'on a la chance d'évoluer pour l'équipe première, c'est quelque chose d'indescriptible, parce que c'est l'objectif de tous les joueurs en préformation, en formation, et il y a très peu d'élus, on a tous le même objectif, mais très peu d'élus. Participer déjà aux semaines d'entraînement est une première étape, derrière pouvoir aussi aller chercher des steps semaine après semaine, mois après mois aussi. Et puis lorsqu'on vous donne cette première chance pour aller porter l'habit de lumière, comme je le dis souvent, c'est quelque chose d'exceptionnel.
C'est joliment dit. Kevin Makassi, une question pour toi, Jean-Michel.
Oui, Jean-Michel, une question pour toi. On sait que tu as eu quand même un beau vécu chez nous au PSG. Selon toi, quel joueur avec qui tu as, on va dire, le... On va dire comment je pourrais dire ça.
Le plus
impressionné. Voilà, désolé.
Oh, à Paris, il y en a eu beaucoup. Hein. J'ai eu la chance du début de mes séances d'entraînement avec l'équipe professionnelle afin de rencontrer pas mal de top joueurs. S'il faut en sortir deux, parce que un, c'est compliqué, je donnerai Rony. Rony,
ouais,
qui
c'est
d'ailleurs
pas mal.
À Angers vendredi.
C'est d'ailleurs. Pas original, ça, Jean-Michel.
Original, monsieur.
Oui, oui. Mais je dirais Nico Anelka.
Ah ouais, bon.
Ah bah ouais, grand joueur, okay. Très grand joueur, Nicolas Anelka. Ouais. Un petit aspect, Jean-Michel, que je voulais évoquer avec toi, parce que ça va nous permettre de tirer un fil, c'est sur ta carrière qui a été malheureusement jalonnée par les blessures, notamment la rupture du tendon d'Achille. Pourquoi j'en parle ? Parce que Presnel Kimpembe, hier, victime également de cette blessure, a déclaré chez nos confrères de Canal qu'il espérait revenir, que l'on allait voir un nouveau Presnel Kimpembe, qu'il avait la dalle, je cite ses propres mots. Est-ce que l'on peut revenir et est-ce que tu crois à un retour de Presnel Kimpembe de cette blessure-là?
Oui, très clairement. C'est pas une blessure simple. Alors effectivement, comme tu l'as mentionné, j'ai été victime de cette blessure en fin de parcours, en fin de carrière. Donc c'est aussi un paramètre à prendre en compte. C'est une blessure qui est pas simple parce que les croisés aujourd'hui, on en revient très facilement, par exemple, parce que
ils le disent, c'est bien pire que les croisés, hein, le tendon d'Achille, ouais, Presnel.
Bah on a beaucoup de recul sur les croisés, sur le tendon d'Achille un petit peu moins. Et puis, force est de constater que cet aspect blessure, il est compliqué dans le sens où vous avancez au jour le jour, step par step, mais vous avez tous les jours au quotidien des garçons qui, eux, sont à bord d'un TGV ou qui vont à 2000. Donc, ils prennent soin de vous parce que vous êtes l'un des leurs, mais ils n'ont pas le même quotidien que vous parce qu'ils ont une réalité et des responsabilités aussi. Mais en ce qui concerne Presnel, ça va faire un an. Un an et demi qu'il n'a pas joué, c'est beaucoup, mais il faut lui souhaiter le meilleur, qu'il soit bien déjà dans sa tête. Il a encore un âge aussi où il n'a pas 10 ans de plus, hein, donc c'est quelque chose d'important. Et puis c'est un garçon qui, avec aussi l'ambition qu'il a et la responsabilité qu'on a quand on est au Paris Saint-Germain, fera tout pour revenir à son meilleur niveau. Après, il y aura des choix qui seront pris en compte par Luis Enrique, par le secteur médical, mais il fera tout pour être au top, j'en suis sûr.
Quelle valeur vous accordez à ce potentiel retour de Presnel Kimpembe?
Alors je sais pas si c'est bien de le dire comme ça, mais c'est presque bonus en fait.
Ouais. C'est une recrue.
Ouais, c'est presque une recrue.
Recrue, vous êtes dur.
En fait, c'est quelqu'un qui est viscéralement, c'est son club, le PSG, qui est viscéralement attaché au PSG. Ah, et c'est un titi. Et forcément, on a une affection particulière pour lui. Et je pense sincèrement qu'il donnera tout et il donne tout pour revenir. Après, donc, à quel niveau, avec quelle intégration, avec ce nouveau coach pour lui, presque,
ouais, et quel statut, parce qu'il y a de la concurrence qui est quand même derrière.
Il y a une vraie concurrence, ouais. Et moi j'y crois, personnellement.
Ouais.
Je pense que ça peut être un joueur qui amène du dynamisme à l'équipe, t'sais, sa grinta aussi, qu'il a régulièrement, comment il s'appelle, la force, etc., le mental. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'après, au niveau de la concurrence, ça va être compliqué. Hein.
C'est vrai que dans les...
Oui.
Vas-y,
tu parlais du statut, j'ai envie de dire qu'il a même pas, il doit même pas y penser. Penser, ouais. Quelque part, c'est peut-être le seul moment où on va pas lui demander de penser au collectif, ouais. Mais à lui.
Ouais.
Il va avancer semaine après semaine, mois après mois. Et c'est pour ça que d'ailleurs qu'il y a du monde à ce poste-là aussi actuellement au club. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, c'est valable pour Hernandez qui reviendra aussi, s'il s'est croisé. Pensez à vous. Pensez à vous, le niveau reviendra semaine après semaine, les sensations, parce qu'on peut avoir parfois la sensation d'être très bien et puis le lendemain un petit peu moins bien, donc l'aspect mental est super important, mais ils reviendront, aussi bien l'un que l'autre, mais ils reviendront.
Jean-Michel, on poursuit avec tes souvenirs, c'était il y a 20 ans, hein, un jour près, le 10 novembre 2004. OM-PSG en 16e de finale de Coupe de la Ligue. Alors, tu es titulaire dans ce match quand même à l'histoire très particulière parce que c'est trois jours après un autre classique gagné par le PSG. C'est la 7e victoire de rang à l'époque face à l'OM. Ali Lucic aligne au Vélodrome une équipe quand même assez remaniée et ça accouche d'un match complètement irréel. Raconte-nous.
Effectivement, ça, c'était une dynamique importante pour nous parce que c'était une période où on les tapait tout le temps, ou quasiment.
Bah oui, on peut le dire.
D'ailleurs, ça n'a
pas changé, ça.
Le grand 8.
C'est plutôt intéressant à vivre. Mais oui, on sortait d'un match en championnat où on venait de s'imposer. Et puis derrière, le coach avait décidé aussi de, quelque part aussi, intéresser, valoriser tout le monde, dans le sens où ça travaillait bien aussi. Donc il avait lancé des joueurs aussi qui avaient un petit peu moins d'expérience, dont je faisais partie. Et puis c'est un match qui, comme très souvent aussi, accouche d'une part d'irrationnel, quelque part, parce que mené très vite 2-0.
Ouais.
Et je pense qu'il y a un événement sur ce match qui sonne la révolte de tout le monde. C'est le comportement d'Eduardo Costa, qui jouait à l'époque à l'OM. Après le deuxième but, il prend vite le ballon, qu'il le remet au rond central, comme si on était sur un match de Coupe d'Europe où il fallait mettre un 3, 4, 5, 6-0. Et à ce moment-là, je me rappelle, on a cette conversation avec Céline Benachour et Édouard Cissé, et on se dit, ouais, en clair, donc avec ce geste, il pense en mettre 3, 4, 5, 6 sur la soirée. Et malheureusement pour lui, c'est un peu l'inverse qui se...
C'est ce qui vous a réveillé, ce qui a forgé la révolte.
Oui, parce qu'il y a un but très vite, juste avant la mi-temps aussi de Bosco. Et je pense qu'à 2-0, c'est plus du tout la même deuxième période, alors qu'à 2-1... Au contraire, les dynamiques s'inversent et derrière, il y a ce doublé de Bosco, il y a ce but de Bermendi. Et on est encore content de prolonger la série parce qu'on ne voulait sûrement pas être le 11 qui a
gâché cette victoire 3 buts à 2. Clément, Kevin, quel souvenir vous avez de ce match-là?
Jean-Michel, je te fais une confidence, c'est le premier match que j'ai vu de football à la télévision. Alors mon père est supporter du PSG et pour moi, c'était pas pareil contre Marseille, c'était les Blancs contre les Bleus à l'époque, j'étais tout petit. Et donc je le vois qui pète un cap sur le 1-0, le 2-0, puis voilà, moi je comprenais pas, puis après j'ai vu Boskovic que c'est vrai que Boskovic qui a fait sa carrière, enfin de sa carrière à ce moment-là.
Bah c'est oui,
puis
c'est
pareil qu'il gagne et c'est vrai que c'était incroyable et du coup t'as participé à ce moment-là pour moi qui est assez unique, donc c'est assez drôle de souvenir.
Kevin.
Bah moi je me souviens, je crois que c'était un mercredi après-midi, il me semble le match.
C'était un soir. Je pensais que t'avais dû avoir le droit de voir le match parce qu'il n'y a pas école le lendemain.
Et moi je m'en souviens en fait. Justement, comme il a dit Jean-Michel, c'est qu'on perd vite 2-0.
Ouais.
Et là, tout le monde pense que ça y est, c'est la cata. Et puis, t'as le fameux Branko Brozkovic qui sort de nulle part. Incroyable, ce joueur. Je me souviens aussi d'un but qui met contre Montpellier aussi. Pas mal. Mais tu vois, en fait, tu vois des joueurs comme ça.
Il y a le doublé, et puis il y a ce lob fabuleux sur Fabien Barthez. Avant, la passe D de
Lizarazu.
Juste une petite anecdote. Raconte-nous ce qui s'est passé dans le vestiaire derrière quand tu gagnes un classico à Marseille, Pauvel, en étant mené 2-0. T'as des souvenirs de ça?
Alors, je sais pas si les souvenirs sont les mêmes pour tout le monde, parce qu'en plus du fait de battre le rival historique, pour moi, c'est un match particulier, forcément. Je sais qu'il y a toute ma famille, tous mes proches qui sont devant l'écran. Je sais aussi que plus jeune, là où j'ai grandi, c'était très souvent Paris ou Marseille. Mmh. Donc en cas de défaite, j'aurais pu prendre un chambrage pendant X temps. Là, je me suis bien lâché. Et puis plus que le match en soi, c'est tous les jours qui suivent après. En ville, on a l'impression, alors sans être des rockstars, je ne vais pas aller jusque-là, mais c'est plus tout à fait la même vie. Parce qu'on a battu l'OM, parce qu'on a joué au moins un classico et qu'on est sorti victorieux de ça. Pour vous raconter une petite anecdote qui est en périphérie terrain, le lendemain du PSG-OM, je vais manger sur les Champs-Élysées et je grille un feu rouge juste avant l'Arc de Triomphe. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que je comprends qu'il y a un feu rouge. Je savais même pas qu'il y avait.
Je rigole parce que j'imagine la suite.
Voilà, je me fais arrêter par la police, normal, coupable. Je donne mes papiers et là, le policier revient, il me dit « Ah, mais vous avez joué hier, c'est bien vous ?» Je dis « Oui, oui, une petite félicitation. » Et puis, bah, du coup, il me laisse repartir comme ça. Donc, j'ai appris deux choses. Que gagner un PSG Marseille, c'était bien. Et aussi qu'à l'Arc de Triomphe, il y a un feu avant de, avant de prendre le rond-point.
Et que tu as un privilège de Titi Parisien qui gagne au Stade Vélodrome. Voilà, c'était le Grand 8, messieurs, juste pour refermer cette belle parenthèse. Elle avait quand même une sacrée valeur, saveur, cette série-là. À l'époque, peut-être un petit peu plus que maintenant, avec les exploits de Ronaldinho et de Jean-Michel Badian.
Bah oui, oui. De toute façon, la rareté créait la valeur. Ouais. Et à l'époque, Paris n'était pas le PSG d'aujourd'hui. Et l'équipe, sans manquer de respect à personne, n'était pas non plus la même. Il n'y avait pas de superstar comme aujourd'hui. Donc oui, et puis l'OM était... c'est vrai qu'aujourd'hui, l'OM a un complexe d'infériorité qui est criant face au PSG. À l'époque, c'était pas le cas.
Ah oui.
Donc voilà. Mais de toute façon, franchement, même cette année et tout le temps, dès que tu vas gagner là-bas, c'est génial. C'est génial à chaque fois.
Jean-Michel Badian était l'invité de COP Paris ce soir. Alors, je vais te remercier. Mille merci, Jean-Michel. Objectif maintien avec Angers.
Oui, oui, on va travailler comme on le fait depuis le début de saison. Et puis, gagner, si on arrive à faire gagner 1% à chaque joueur à chaque sortie, j'espère qu'on sera pas loin, ou en tout cas à la bagarre pour se maintenir et rester dans cette belle Ligue 1.
Et ben c'est ce qu'on te souhaite au SCO d'Angers. On t'attend pour le match retour, je crois que c'est au mois d'avril. Ça sera pour le débrief sur le plateau de COP Paris. Merci Jean-Michel, très bonne continuation à toi. Merci. Avec le SCO d'Angers. On va passer à l'Omnisport, les résultats de vos clubs franciliens du week-end. C'est avec Raphaël Redon.
Paris Basket a tranquillement dominé Saint-Quentin lors de la 8e journée de Betclic Elite. Trois jours après leur victoire en Euroleague face aux Partisans de Belgrade, les Parisiens n'ont pas eu besoin de forcer leur talent contre le club de l'Aisne. Succès 97-65 avec notamment 29 points du français Nadir Rifi. Paris conserve sa troisième place du championnat. Match spectaculaire entre l'ASVEL et Nanterre qui a finalement tourné à l'avantage du club de Villeurbanne, 109-103. Les franciliens ont subi dès l'entame, menés 37-13 après le premier quart-temps, mais ont espéré en fin de match en revenant à 5 points. Finalement, Nando De Colo a fait parler son expérience pour sécuriser la victoire des siens. 6e défaite en 8 matchs pour Nanterre, 14e de Betclic Elite. Le PSG a tranquillement dominé Strasbourg 4-0 en Arkema Première Ligue. La grande artisane de cette victoire s'appelle Marie-Antoinette Katoto, auteure d'un triplé. Le 4e but est inscrit par la jeune attaquante de 17 ans, Freya Dorsin. Paris conserve sa 2e place du championnat à 1 point de l'Olympique Lyonnais. Le Paris FC n'a pas réussi à s'imposer à Pau lors de la 13e journée de Ligue 2. Pourtant, les occasions n'ont pas manqué. Le gardien palois Camara a notamment réussi de nombreux arrêts. Crasso a touché la barre. Mais score final 0-0. Le PFC reste en tête du championnat avec 1 point d'avance sur Lorient. Enfin, au Red Star, la fête a été gâchée. Le match arrêté temporairement après des jets de balles de tennis sur la pelouse. Pour le club francilien, dans le jeu non plus, ça n'allait pas. Lourde défaite 3-0 à domicile face au club de Troyes. Le Red Star est 17e et avant-dernier de Ligue 2.
COP Paris, c'est déjà fini. Un immense merci à mes deux chroniqueurs du soir, Clément Pernia.
Merci à toi.
Merci Clément. Merci Kevin Macassi.
Merci, au plaisir.
On te retrouve sur le Max Pay sur X.
Ouais, exactement. Twitter.
Merci également à Jordan Le Sueur ce soir à l'édition. Et on se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de COP Paris. Ciao, ciao.